donner une voix à celles qui n'en ont pas. Un vendredi sur deux à 18h, Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission qui traite des maltraitances et des violences faites aux femmes handicapées visuelles et aux enfants handicapés visuels. Elles sont nombreuses, les femmes maltraitées, mais celles qui sont en tête de cortège, si je puis dire, ce sont les femmes handicapées et notamment les femmes handicapées visuelles. Elles sont souvent isolées, mises à l'écart et subissent, sans rien dire, les violences, les maltraitances. Aujourd'hui et tout au long de ces émissions, nous parlerons des personnes déficientes visuelles, donc des personnes handicapées visuelles. Nous parlerons qu'est-ce que la non-voyance, la malvoyance, les personnes aveugles, quelle est la différence entre cette population. Mais nous apporterons aussi des réponses et nous apporterons aide et conseils à toutes les personnes handicapées visuelles, mais aussi à tous les valides qui entourent les sœurs, les frères, les petits-enfants qui ont une grand-mère déficiente visuelle. Nous apporterons de l'aide et des conseils pour toutes ces personnes valides qui recherchent parfois de l'aide et qui n'en trouvent pas. Bienvenue dans notre émission. Et aujourd'hui, pour traiter de ces questions-là, j'accueille Caroline. Caroline qui nous racontera son parcours de vie. Caroline, bonjour.
Bonjour, Moni.
Caroline, comment allez-vous ?
Ça va bien.
Merci. Bon, je suis très très heureuse de vous accueillir. Je vais accueillir aussi Noam. Alors, Noam, bonjour.
Bonjour.
Voilà, Noam est une jeune étudiante. Caroline est malvoyante. Nous parlerons de la spécificité de la malvoyance. Noam est une personne valide qui travaille aux côtés des auxiliaires des aveugles et qui a décidé de nous accompagner dans ce travail qui va apporter aide, qui je l'espère apportera aide et conseils aux personnes aux femmes déficientes visuelles et aux familles d'enfants déficients visuels. Caroline, vous avez accepté de participer à cette émission. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ?
Je me dis que si ça peut aider des personnes qui en ont besoin, c'est bienvenu, parce que moi, j'en ai pas trouvé le moment où j'en ai eu besoin. Mm-hmm. Au moment où j'en ai eu besoin, donc voilà, j'espère que ça aidera des gens.
Oui, je n'en doute pas. Ça, non seulement ça peut les aider juste de vous entendre, de savoir qu'ils ne sont pas seuls, mais aussi de voir quelle solution peut-être vous avez trouvée ou pas. Et donc, nous allons peut-être commencer à expliquer quelle est la différence. Je vais prendre un peu la parole et je vous la rends tout de suite, Caroline. Quelle est la différence qu'il y a entre les aveugles, les malvoyants et les non-voyants, ce qu'on appelle la famille des déficients visuels. Alors les aveugles, pour être clair, ce sont ce qu'on appelait autrefois, ce sont des bébés qui perdaient la vue très tôt après la naissance. Aujourd'hui, grâce au progrès de la médecine, ça n'existe quasiment plus. À l'époque, les derniers à perdre la vue très tôt après la naissance, c'était des prématurés qu'on mettait un peu trop longtemps en couveuse et on leur balançait de l'oxygène, on leur balançait un peu trop d'oxygène et pendant trop longtemps. Quand on a découvert ça, on a mis des régulateurs et c'est ce qu'on appelle les progrès de la médecine. Et puis, il y a la population des non-voyants. Alors, ce n'est pas des effets de style, ce n'est pas parce que c'est la mode, parce que c'est la pudeur ou que c'est tabou. Il n'y a pas de tabou dans le milieu en déficient visuel. On utilise le même vocabulaire, on a vu un ami. Donc, on n'utilise pas non-voyant parce qu'on n'ose pas utiliser d'autres termes. On dit non-voyant parce que c'est une vraie population. C'est une population qui ne voit plus. C'est une population qui a perdu la vue à un moment donné de son histoire. C'est pour ça qu'ils sont non-voyants. Donc, ce sont des gens qui ont vu. Grosso modo, c'est la population actuelle. Actuellement, la plus grande majorité de population, ceux qui ont au-dessus de 70, c'est plutôt ce qu'on appelait des aveugles. Aujourd'hui, c'est plutôt des non-voyants. Ce sont des gens qui ont perdu la vue tardivement. Et entre les deux, dans le milieu déficient visuel, il y a les malvoyants. Les malvoyants, grosso modo, c'est plutôt, comme son nom l'indique, ce sont des gens qui voient, mais mal. C'est plutôt des gens qui sont en train de perdre la vue, mais pas tout le temps. Nous le découvrirons avec Caroline. Ce sont des gens qui peuvent avoir, à un moment donné, eu la vue qui a suffisamment perdu, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais qui a perdu la vue à un degré au point où ils sont devenus handicapés, mais qui voient encore. Voilà, ce sont des personnes qui voient encore. Alors, Caroline, peut-être Peut-être vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui a fait que dans votre histoire, vous avez perdu la vue. Vous êtes devenue malvoyante.
Ben, moi, ce n'est pas ce cas-là. Moi, je suis malvoyante de naissance.
Oui.
Je suis albinos et les gens ne le savent peut-être pas, mais tous les albinos sont malvoyants. Oui. Amblyopes, précisément. Voilà, donc moi, je suis très, très gênée par la lumière. Je suis gênée par les contre-jours. Et effectivement, j'ai une, voyance, une vision pardon, très faible et je ne peux pas lire les panneaux dans les rues, dans les magasins, les prix. Enfin, je ne reconnaîtrai pas ma mère dans la rue. Voilà, mais par
pour
contre,
autant,
j'arrive à me diriger.
Je pense que c'est important de le préciser, Caroline, pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui ne connaissent pas du tout la déficience visuelle. Pour autant, vous n'avez ni canne ni chien guide. Vous n'avez absolument rien.
C'est ce que je voulais préciser. Que justement, je me déplace normalement, je regarde les gens quand je m'adresse à eux. Donc, j'ai ce qu'on appelle un handicap invisible.
Oui,
donc,
oui,
c'est là où c'est très compliqué de faire comprendre aux gens qu'on est malvoyant. Parce que si on me voit sans savoir que je suis malvoyante, on n'imagine pas du tout que c'est le cas. Voilà, je me dirige normalement. Voilà, j'utilise ma canne plus en prévention pour que les gens se rendent compte que j'ai un handicap, ou quand vraiment je suis dans des endroits que je connais pas du tout, où la luminosité soit trop faible, soit trop élevée, et où là j'ai besoin effectivement de ma canne pour me rassurer, pour éviter de tomber d'un trottoir, ou voilà, des choses comme ça. Mais autrement, oui, je me débrouille à peu près comme tout le monde, si ce n'est que je peux pas travailler comme tout le monde, je peux pas lire, écrire comme tout le monde, je peux pas conduire, enfin, il y a beaucoup de choses que je peux pas faire.
Voilà. Oui, en fait, vous vous en servez quand même en grande partie pour signifier que vous êtes déficiente visuelle.
C'est ça.
Sinon, vous, voilà, quand vous n'en appelez pas l'utilité, vous...
Il y a des moments où j'en ai besoin, d'autres pas. Ça va dépendre des moments de la journée en fonction de la luminosité. Ça va dépendre de mon état de fatigue, parce que selon ma fatigue,
sûr,
je vois
sûr.
Plus ou moins flou. Enfin, voilà.
Ça a des conséquences sur la manière de voir, bien sûr. Voilà, tout à fait. Alors, ça a démarré très tôt. En fait, vous êtes née déficiente visuelle, malvoyante.
Oui.
Et donc, quel a été votre... parcours dans l'enfance, du coup?
Mes parents, quand ils ont eu connaissance de mon handicap, m'ont placée dans une école spécialisée sur les conseils. Donc,
on peut rappeler à quelle période, à peu près, pour dire, c'était pas il y a 20 ans, quoi.
J'ai 55 ans aujourd'hui. Donc,
les choses ont changé un petit peu aujourd'hui.
Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, les médecins, toutes les personnes qui ont aidé mes parents à l'époque, m'ont orientée donc, dans une scolarité spécialisée.
Oui.
Et ça a été le cas jusqu'à ce que j'aille en seconde, première terminale.
Comment ça s'est passé, votre scolarité, quand même, de déficiente visuelle dans une école ordinaire, finalement?
Alors, pendant toute la période de l'enfance, dans le milieu spécialisé, tout s'est très bien passé.
D'accord.
Et quand je suis passée du jour au lendemain du milieu spécialisé au milieu normal, entre guillemets, alors là, ça a été une catastrophe.
Vous aviez quel âge quand vous avez basculé?
J'avais 17 ans.
17 ans. Donc, c'était l'adolescence.
Et en plus, mes parents ont changé de région en même temps. Je me suis retrouvée donc dans le cycle secondaire en même temps. Donc, tous les changements en même temps. Et je n'avais pas du tout été préparée à ce changement. On m'a passée d'un milieu à l'autre comme ça, du jour au lendemain. Et moi-même, je ne savais pas comment expliquer mon handicap aussi bien aux professeurs qu'aux élèves, etc. Et ça a été l'enfer. Beaucoup, beaucoup de harcèlement. Enfin, ça a été compliqué.
On va y revenir tout de suite. Caroline, qu'est-ce qui fait que vos parents ont décidé de vous mettre en milieu ordinaire?
Déjà, on a changé de région. Et dans la région où on est allé, il n'y avait pas autre chose. Donc, j'ai été obligée d'être scolarisée dans le milieu normal.
Est-ce que vos parents ont sensibilisé les enseignants?
Non, je ne crois pas. Enfin, peut-être qu'ils l'ont fait, mais je n'en ai pas eu connaissance. Je crois qu'eux-mêmes ne devaient pas trop savoir, puisque j'étais en pension quasiment toute ma vie. Et je les voyais que le week-end et pendant les vacances, mes parents. Donc, peut-être qu'eux-mêmes n'avaient pas forcément les mots, n'ont peut-être pas non plus perçu mes difficultés. Enfin, je ne me souviens pas qu'il y ait eu beaucoup de communication à l'époque, en fait. Après, je ne m'en souviens pas. Peut-être qu'ils l'ont fait et que je ne l'ai pas retenu, mais... J'ai eu l'impression d'être un peu seule à cette époque. Oui.
Au niveau de votre scolarité, comment ça s'est passé? Donc, quand vous avez été projetée dans le milieu valide, du coup, pour
suivre... l'enfer.
Oui.
L'enfer total. J'ai pas du tout réussi à me faire des amis. Au contraire, j'étais le souffre-douleur de la classe.
Oui.
C'est comme en plus je suis albinos, j'étais différente aussi physiquement, donc voilà, je rentrais le soir, j'avais des boules de papier chiffonnées dans mon cartable et c'était un petit lapin dessiné avec les yeux coloriés en rouge, c'est des choses comme ça, donc c'était très sympathique. Et en fait, bah oui, j'entendais tellement de réflexions, j'étais tellement mise de côté tout ça que à chaque fois qu'il y avait un intercours, j'allais me réfugier dans les toilettes pour pleurer, quoi.
Oui. Bon. On va, Caroline, revenir tout de suite à ce niveau-là, c'est-à-dire parler de la maltraitance finalement que vous avez subie au cours de votre scolarité. Mais avant ça, on va écouter Clara Luciani, la bombe, je crois que c'est.
C'est pas la grenade ?
C'est la grenade. C'est pas loin, quoi.
C'est ça.
Une grenade, c'est une bombe.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
À celles qui n'en ont pas, un vendredi sur deux à 18h, Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Oui, alors c'était Clara Luciani, la grenade. On était en pleine conversation. Il faut croire que les maltraitances, ça donne envie de débattre. Voilà. Nous étions donc dans le harcèlement que tu as subi, Caroline, au cours de ton adolescence.
Oui.
Et tu étais seule, livrée à toi-même, pour faire face à ça.
Oui, parce que les professeurs ne comprenaient pas. En fait, je crois que le début du harcèlement, ça a dû être lié au fait que comme je suis malvoyante, je me mettais au premier rang tout le temps pour essayer de voir le tableau je ne voyais quand même pas.
Les enfants n'aiment pas, les ados n'aiment pas,
et
personne
voilà,
n'aime.
Je passais pour la faillotte, en fait. Donc je crois me souvenir que ça a dû débuter comme ça. Et forcément,
Et je crois que tous les déficients visuels qui ont évolué en milieu ordinaire ont
subi ça.
Savent
de quoi je parle, voilà. Ils se reconnaîtront. Mm-hmm. Ouais, et puis, j'ai peut-être pas trop osé parler aux profs parce que même eux ne comprenaient pas mon handicap. Parce que quand j'essayais de leur demander de dicter les mots que je ne voyais pas au tableau, tout ça, ils ne le faisaient pas, ils oubliaient tout le temps. Puis moi, je n'osais pas me rappeler à l'ordre sans arrêt, interrompre le cours sans arrêt. Et je n'osais pas utiliser ma loupe pour lire en classe, tout ça. Enfin, c'était vraiment
Tout le monde était compliqué. On a l'impression que tout le monde était un peu dépassé par ta déficience visuelle, finalement.
Je pense que justement, comme mon handicap ne se voit pas, ils avaient tendance à l'oublier. Et comme moi, je n'osais pas le leur rappeler, pour pas tout le temps être stigmatisée, mise en avant, pour pas interrompre, pour pas qu'on me remarque, pour pas, enfin voilà. Et donc j'arrivais pas ni à l'expliquer à mes camarades ni aux profs en fait. Enfin mes camarades, je peux pas appeler ça des camarades puisque c'était loin d'être le cas.
Et puis donc, la malvoyance c'était un ovni à l'époque. Tard, on ne connaissait que les aveugles ou les valides. Il y avait pas d'entre
pas
deux.
Juste milieu, hein. Oui, donc ça a été compliqué pour moi de l'exprimer et j'avais l'impression à cette époque-là que ça venait des autres, mais c'est vrai que maintenant, à l'âge que j'ai, avec le recul, c'est parce que j'expliquais pas, mais j'osais pas expliquer parce que j'étais complexée. Donc,
c'est intéressant. C'est qu'en fait, c'est important ce que vous dites, parce que ça peut aussi aider les gens, les déficients visuels qui nous écoutent, qui certainement rencontrent ou ont rencontré les mêmes difficultés, c'est de savoir que ce qu'on n'accepte pas soi, ce qu'on connaît pas soi, on peut pas aider les autres à l'accepter et à faire avec.
Voilà, il faut pouvoir expliquer ce qu'on vit pour que les autres puissent le comprendre. Mais quand soi-même on est dépassé, puisque moi je rappelle que je venais d'un milieu où il n'y avait que des malvoyants, donc je me suis retrouvée dans un milieu où il n'y avait que des voyants, donc pour moi c'était...
Oui, c'était d'autres codes, d'autres... Voilà. Vous étiez dépassé finalement.
C'était complètement un autre monde et je ne savais pas à quoi me raccrocher en fait, j'étais complètement perdue. Mmh. Et en plus, mes parents étant dans la restauration, c'est vrai qu'ils avaient des horaires impossibles.
Ils étaient submergés,
donc c'était impossible aussi de communiquer. Mmh. Donc voilà, j'étais un peu seule de tous les côtés. Oui. Même s'ils ont quand même compris ma détresse, puisqu'à un moment donné, ils m'ont permis d'avoir un studio à côté de l'école pour m'éviter de me lever à 5h du matin pour prendre le bus, tout ça. Donc,
oui, ils ont trouvé des solutions pour l'aspect pratique.
Ils ont
voulu
m'aider.
Finalement, voilà. Mais tout ce qui était d'ordre psychologique, psychique, pour votre vie, en fait, ils n'ont pas su. Mais il faut
mais
se remettre aussi...
Je ne sais même
aussi...
pas si je leur ai dit, je m'en souviens
oui.
pas.
Je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. À l'époque, on ne sensibilisait pas les écoles à la différence, etc. Ça n'existait pas. Il fallait que les enfants s'adaptent.
Et puis, ils avaient l'impression de faire leur BA parce qu'ils m'ont offert des cours particuliers en physique, en maths. Voilà.
Vos parents?
Donc, non, c'était offert par l'école, par
d'accord,
l'académie.
Oui.
Donc, l'école avait l'impression de faire ce qu'il fallait, puisqu'il m'offrait en plus, je passais les examens, j'avais mon tiers-temps, enfin, il faisait tout bien comme il faut, mais au niveau psychologique, c'était pas ça, mais voilà, est-ce que moi je l'exprimais clairement, je sais pas, je pense que, comme je disais tout à l'heure, je me réfugiais dans les toilettes pour pleurer, pour pas qu'on voit ma souffrance.
Et c'est pour ça que l'intégration fait beaucoup de bien, après bon, comment se passe l'intégration, c'est encore autre chose, hein, parce qu'intégrer des gens en les mettant dans des classes à part, ça n'a pas trop de sens si on ne les met pas dès l'enfance avec les autres, parce que ça amène l'enfant à s'adapter et les autres enfants à s'adapter, en fait. C'est réciproque. Et c'est ça qui manquait à l'époque.
Oui, c'est vrai.
Ça manquait de réciprocité. Vous étiez dépassé et les gens auxquels vous aviez affaire, les enfants, les ados, les enseignants, étaient dépassés aussi.
C'est ça. Il n'y avait pas de communication entre les uns et les autres. Moi, parce que je n'osais pas, parce que j'avais l'impression d'attirer trop l'attention. Et du coup, si j'attirais l'attention, j'allais encore plus attirer les foudres des camarades. Donc, puisque je passais déjà pour la faillotte. Alors, si en plus j'avais le malheur de prendre un prof à part pour parler ou quoi, c'était...
Et tous les enfants qui ont subi, valides ou non, qui ont subi ce que vous avez subi, ils savent très bien que si on commence à parler, à dénoncer, on s'attire les foudres. Hein.
Exactement. Mmh. Puis c'était simplement le fait de passer du temps avec un professeur, parce que j'ai dû essayer une ou deux fois. J'avais une prof de français qui était super, et elle m'écoutait, et j'étais mal vue parce que la professeure, tout le monde disait que j'étais sa chouchoute, quoi. Oui. Alors que ça n'avait rien à voir avec ça. Voilà. Je cherchais juste de l'aide, être écoutée.
Très bien. Il reste une minute, c'est ça? Je suis un peu perdue. Voilà. D'accord, très bien. J'aimerais maintenant qu'on aborde, Caroline, si vous voulez bien, qu'on aborde une fois que vous avez déjà subi ça, ça vous a beaucoup fragilisé. Je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui l'estime de soi, blablabla, ah tout oui, ça, c'était inexistant, sûr. Quoi. C'était.
Ah non, mais c'était absolument l'enfer. Je manquais complètement de confiance en moi. J'étais détruite.
Donc, du coup, vous étiez seule dans un studio, finalement, vous étiez livrée à vous-même, vous étiez autonome. Enfin, vous aviez tout pour pas réussir. Hein. Je veux dire, ça peut pas être mieux. Hein. Et du coup, vous avez fait une rencontre.
Oui, j'ai rencontré quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi, mais il s'est avéré que c'était quelqu'un qui avait un problème d'alcool.
Au début, ça s'est passé comment ? Vous l'avez rencontré comment ?
Au début, c'est-à-dire que c'était un des clients de l'hôtel, bar, restaurant de mes parents. Donc, je le voyais le week-end quand je rentrais chez mes parents. Et on a fait connaissance comme ça. Mes parents avaient beau me prévenir, me disant que c'était pas quelqu'un de bien, puisqu'il connaissait son problème d'addiction à l'alcool, puisqu'il était au bar toute la journée. Moi, je le voyais pas, j'étais à l'école. Et ils savaient, enfin, mes parents savaient qu'il avait battu d'autres compagnes avant. Donc, mes parents ont voulu m'éviter de tomber dans ses bras, mais bon. J'y suis allée quand même.
Oui, bien sûr, c'est le propre des enfants que d'aller là où on ne doit pas aller.
Voilà, vers ce qu'on nous a interdit de faire. Et puis c'est surtout que, enfin, quelqu'un s'intéressait à moi. J'étais tellement complexée, j'avais tellement pas de petits copains, que le fait d'avoir enfin quelqu'un qui s'intéressait à moi, j'ai plongé.
Oui. Oui, comme tout adolescent aurait plongé. Parce que, faut pas oublier, il faut prendre en compte, au fond. Le désarroi dans lequel vous étiez. Avoir quelqu'un, c'était un peu vous appuyer, pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, même si vous aviez un peu conscience qu'il était défaillant, finalement.
Oui, on avait beau m'avoir prévenu. Avec moi, il était gentil au début, forcément. Hein. Ça se passe toujours comme ça. Et puis, le fait de l'avoir rencontré, moi, au début, j'étais tellement contente qu'un garçon s'intéresse à moi que je voilà. Mais j'écoutais pas les avertissements de mes parents, parce que tout ce que je voyais, c'était enfin quelqu'un qui s'intéressait à moi. Mmh. Et puis ça a mal tourné très vite, hein, puisqu'après il est venu s'installer avec moi dans le studio que mes parents avaient loué à côté de l'école.
À sa demande ou à la vôtre ?
Oh, ça je me souviens plus comment ça s'est passé, mais... Non, je crois que c'est parce que mes parents m'avaient viré de chez moi quand ils ont cru que je continuais à le fréquenter alors qu'ils m'avaient interdit de le faire. Donc mon père m'avait dit, écoute, puisque tu veux rester avec lui, reste avec lui, mais on te coupe les vivres. Et du coup je me suis retrouvée toute seule avec lui. Et c'est-à-dire que je pense que mon père s'attendait pas à ce que je le choisisse lui. Donc ça s'est passé comme ça. Et puis j'ai fini par devoir prévenir les services sociaux de l'école et tout ça, parce que ça a failli très mal se terminer. Voilà, il m'a étranglée, il m'a étouffée sous l'oreiller. Enfin, j'ai eu des bleus. Ça y est, l'émotion remonte.
Oui.
J'ai eu des bleus au cou pendant plus d'une semaine et j'avais du mal à parler tellement ma trachée était écrasée.
Oui.
Voilà. Oui. Et donc, quand on a 17 ans, ils vont ça, c'est pas.
Oui, 17 ans en plus, oui, vous avez raison. Parce qu'on ne dira jamais à quel point, bien sûr, que souvent les femmes, quelles qu'elles soient valides ou handicapées, sont souvent isolées pour, quand elles vivent ce genre de vie. Mais c'est très fréquent chez les personnes handicapées, puisqu'elles sont justement amenées à avoir le parcours que vous avez, c'est-à-dire à être isolées géographiquement des parents pour pouvoir évoluer dans leur vie, être scolarisées, etc. Donc souvent, elles n'ont pas l'entourage qu'on peut avoir quand on fait sa scolarité ou ses études auprès de sa famille ou dans sa ville natale. Et c'est en ça qu'elles sont des proies, en fait.
Oui, je pense qu'effectivement, le fait que j'étais séparée de mes parents à ce moment-là, il en a peut-être profité. J'étais pas... Puis je pense qu'il savait aussi que j'étais aussi dans un contexte très sensible à l'école, donc il a profité. Oui,
il vous a pas choisi par hasard finalement.
Voilà, je pense.
Il savait très bien.
Oui, je dis ça. Il avait personne d'autre non plus.
Oui, mais tout à fait.
Mais en plus, j'étais une proie facile. Voilà.
Et puis il savait que, à travers ce que vous racontez, on entend aussi que vous aviez besoin de lui.
Lui, il a protégé.
Voilà, lui, il a compris que vous aviez besoin de lui, et certainement, il s'est permis tout ce qu'il avait envie de se permettre.
C'est ça. Oui, parce qu'il y avait l'humiliation morale aussi. Il n'y avait pas que les coups. Il y avait aussi, il me dégradait tout le temps, quoi. Déjà que j'avais plus beaucoup d'estime de moi-même après cette scolarité,
oui.
Mais lui, il en a rajouté pas mal de sous dans la machine. Et Voilà, donc se construire comme ça quand on a 17-18 ans.
Est-ce que vous pensez, Caroline, qu'aujourd'hui, les enfants, les femmes déficientes visuelles ont plus de possibilités pour parler lorsqu'elles sont dans ce genre de situation?
Je ne sais pas. Mm-hmm. Je ne sais pas, parce qu'il y a peut-être le fait de ne pas oser parler aussi, mm-hmm. qui fait que, parce qu'on a honte, je pense. Mm-hmm.
Et puis je crois aussi, Caroline, qu'il y a une dimension qui est importante. C'est important de souligner cette dimension, c'est que la non-voyance, ce n'est pas seulement une limite physique, c'est aussi une limite psychique. Ce qu'on ne nous autorise pas dans notre parcours à dépasser, eh bien c'est très compliqué pour les personnes déficientes visuelles de les dépasser. Hein.
Oui, je saurais pas, je peux pas me mettre à la place des autres. En fait, chacun a son propre parcours de vie. C'est difficile de comparer les uns les autres parce qu'on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes amis.
Bien sûr, bien sûr. Donc, aucune histoire n'est semblable.
C'est
hein.
ça. Même chacun ne peut que se débattre et se battre avec ce qu'il a comme ressources. Et voilà, moi j'ai essayé de faire avec ce que j'avais. Et si je peux conseiller aux personnes qui nous écoutent de parler, ben c'est le seul conseil que j'aurais à donner, parce qu'il faut communiquer, il faut absolument parler.
Pour autant, Caroline, vous avez réussi à évoluer, à prendre de l'autonomie, et surtout à ne plus retomber, si j'ai bien compris, avec des personnages de ce genre.
Ben, au niveau amoureux, c'est compliqué, parce que j'ai fait très peu de rencontres après, par manque de confiance. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui,
ça a eu des conséquences, finalement.
Oui, j'ai très peu confiance dans les hommes, forcément. Mais le problème, c'est que le harcèlement ne s'est pas arrêté là. C'est qu'après, dans le milieu professionnel, ça a continué. Donc,
Vous êtes resté l'objet de harcèlement, finalement.
Ouais. Et vous oui, avez... parce que le handicap n'étant pas connu, n'étant pas compris... c'est pareil, au boulot j'ai refait les mêmes erreurs qu'à l'école. En fait, j'étais trop complexée pour exprimer les choses. Eux quand ils m'ont accueillie dans la société, n'ont peut-être pas compris mon handicap non plus, parce que comme je le disais au tout début de l'émission, c'est que mon handicap se voit pas. Je me déplace normalement, je regarde les gens quand je leur parle, donc on voit pas du tout.
On peut dire aujourd'hui que grâce aux jeux, notamment aux jeux paralympiques, les gens saisissent un peu mieux la nuance. Oui. Mais c'est clair que pendant longtemps c'était obscur, quoi. Est-ce que Caroline, qu'est-ce qui fait une fois adulte, vous êtes un peu restée cette, pour être honnête, hein, cette émission où on se racache, donc c'est pas la peine de se raconter des histoires. Oui, qu'est-ce qui fait que vous êtes restée cette petite fille qui subit? Qu'est-ce qui fait que là, vous pouviez voir un professionnel, en parler, ça aurait pu être un psy, ça aurait pu être des services sociaux, parler de ce que vous viviez dans votre travail. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas...
Bah parce qu'encore une fois, j'osais pas, puis j'avais pas conscience, je l'ai compris bien après, bien des années après, j'ai compris que le fait de ne pas avoir exprimé mon handicap, de ne pas avoir exprimé comment fonctionnait mon handicap, fait que les gens ne pouvaient pas le deviner, en fait.
Et puis, de toute façon, il faut être honnête aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on exprime comment fonctionne le handicap, blablabla, qu'on s'exprime que les gens vont forcément se comporter bien. Même les valides, dans leur milieu de travail, rencontrent des personnes qui sont désagréables, qui sont parfois qui vous malmènent. Il n'y a pas besoin d'être handicapé pour ça. Mais être handicapé, ça nous met en tête de gondole, si je puis dire.
C'est-à-dire que moi, en fait, il y a eu une espèce de malentendu du fait que... En fait, ils m'ont embauchée dans la société en tant qu'handicapée pour éviter de payer l'amende qu'ont les sociétés quand ils n'embauchent pas de personnes en situation de handicap. Mmh. Et ils s'attendaient certainement à recevoir une personne non-voyante ou je ne sais pas. Mais du coup, quand ils ont vu que je me débrouillais normalement...
Vous ne correspondiez pas au profil, à l'idée qu'ils en avaient. Oui, certainement, certainement qu'à l'époque.
Mais c'est surtout que du coup, ils se sont dit, finalement, puisqu'elle voit... entre guillemets, normalement, on va lui donner à faire des tâches normales. Donc, effectivement, ils m'ont donné à faire de la saisie de séquences ADN, ils m'ont donné à faire du classement dans les archives, ils m'ont fait faire des choses où vraiment ça posait problème au niveau des yeux. Et quand je disais que je ne pouvais pas le faire, on me traitait de feignante. Ou quand le classement était mal fait ou quoi, on me disait que je n'étais même pas foutue de faire du classement parce que je confondais les 0, les 6 et les 8. Donc, donner des tâches visuelles à quelqu'un qui est malvoyant, ça pose un problème. Mais ils n'avaient pas conscience de mon problème de vision, puisque je ne l'exprimais pas. C'est ça, en fait, que je voudrais faire passer comme message.
Oui,
c'est que
on
a l'impression que le problème vient des autres. Mais si nous, on n'explique pas aux autres comment fonctionne notre handicap, quelles sont nos limites, Ils peuvent pas le deviner, ils peuvent pas le savoir pour nous, surtout dans le cadre du handicap où c'est invisible. C'est... Quelqu'un qui est non-voyant, c'est peut-être plus clair, mais il faut quand même expliquer les choses, parce que les gens peuvent ressentir de la gêne, ils peuvent penser que c'est tabou, ils peuvent peut-être ne pas oser poser de questions. Enfin, il faut comprendre que voilà, la communication, en fait, c'est vraiment la clé de tout. Il faut que les deux parties puissent s'exprimer, que les personnes valides osent poser des questions à la personne qui a un handicap et que la personne qui a un handicap aille vers l'autre aussi et pas attendre que ce soit le valide qui vienne vers nous. C'est à nous aussi, en tant que personnes handicapées, d'aller vers les autres, d'expliquer quels sont nos besoins. Je suis émue, hein, parce que ça fait remonter beaucoup de choses.
Bien sûr.
Et voilà, je
merci
pense que
en
c'est
tout cas, vraiment, vraiment, Caroline, merci pour ce que vous avez tiré de cette histoire. Parce qu'au fond, ce qu'on vit dans la vie, qu'on soit valide ou personne handicapée, c'est pas tant les épreuves, parce qu'on en vit tous des épreuves, quelles qu'elles soient. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on tire de ces épreuves. Si on n'en tire rien, ça n'a aucun sens. Et toi, Caroline, vous avez... Bah oui, on se tutoie, on se vous voit.
Ça, c'est... J'analyse beaucoup, oui, bah oui.
Vous en avez tiré en fait ces conclusions là, c'est que
j'analyse toutes les situations.
Il y avait une, voilà, absolument, il y avait une part de vous, et c'est important que dans quelques situations qu'on rencontre de maltraitance, de violence, d'abus de pouvoir, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que chacun de nous avons fait pour se retrouver dans cette situation, parce qu'on n'a pas été là par hasard. Alors bien sûr que c'est pas la même chose pour les enfants, hein. Les enfants, ça reste de vraies victimes. Même si les femmes sont aussi des victimes. Mais il y a un moment donné, il faut s'interroger, il faut se faire aider pour comprendre qu'est-ce qu'on a mis en place pour se retrouver dans cette position et ne plus retomber. Parce que c'est ça qui compte. Hein. Oui. C'est pas de sortir, parce que si c'est pour sortir de cette situation et
mais
retomber...
Mais qu'on y retourne, bah oui.
Absolument, Caroline.
Oui, parce qu'on retrouve souvent les mêmes schémas, puisqu'on s'est forgé une personnalité et bon, on ne peut pas la changer du jour au lendemain. Donc je pense vraiment, il faut s'analyser soi-même déjà, savoir comment nous-mêmes on fonctionne pour pouvoir l'exprimer aux autres et exprimer nos besoins. C'est le plus important.
Ok. Caroline, un grand merci. Vraiment, merci du fond du cœur d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi pour toute ta sincérité. Merci aussi d'avoir permis à des auditeurs de Campus Paris qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas la malvoyance, de savoir que si parfois quelqu'un leur pose des questions d'une direction, mais c'est pas par hasard.
C'est ça.
Parce que c'est assez fréquent qu'on nous dise.
Si je peux me permettre juste une mini anecdote. Moi souvent dans la rue, quand j'utilise ma canne, il arrive des moments où je la replie dans la rue et je continue à marcher normalement. Et l'autre jour, il y a quelqu'un, c'était un SDF qui était à côté de moi et qui dit ça va les yeux finalement. Je dis écoutez, faut pas vous fier aux apparences, monsieur. Oui. Donc voilà, c'est le genre d'anecdote.
On a tous des exemples, des contre-exemples du nombre de fois où on a été prise pour des simulatrices. Mais c'est pas mal finalement d'être prise pour une simulatrice. On va donner la parole à Noam. Noam, est-ce que tu peux nous donner quelques numéros pour les auditeurs de Campus Paris, des numéros qui puissent leur permettre de trouver de l'aide, de trouver du recours.
Bien sûr. Donc, face à ce récit poignant, je vais vous donner 4 numéros. Le premier étant le 3018, qui a pour vocation de soutenir et d'accompagner toutes les familles et les enfants qui subissent de l'harcèlement. Ensuite, on a le 3919, le numéro des femmes battues, et le 119, qui sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, partout en France et dans les territoires d'outre-mer également. Et enfin, le numéro d'SOS Amitié, le 01 42 96 26 26, qui a pour vocation d'écouter toutes les personnes en état de crise.
Oui, c'est important. Si vous vous sentez parfois, ce qui est assez courant chez les personnes déficientes visuelles, si vous vous retrouvez un peu isolée, parfois un peu démunie, parfois un peu triste, vous pouvez au moins parler, libérer votre angoisse auprès de SOS Amitié. C'est un service d'écoute tout public. Ils seront ravis de vous accueillir. On aura d'ailleurs l'occasion de les accueillir dans notre émission. Caroline, je vous remercie. Merci infiniment. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, Caroline ?
Non, je pense que j'ai dit l'essentiel. Vraiment, je voudrais insister vraiment sur le fait qu'il faut que les gens s'expriment. Voilà, qu'il y ait de la communication. C'est le plus important. Il ne faut surtout pas rester avec son mal-être.
Mais voilà, voilà, ça sera le mot de la fin. Il faut surtout pas rester avec son mal-être. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi l'émission. Ben, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle émission où nous traiterons à nouveau des maltraitances et violences faites aux femmes et aux enfants déficients visuels. Merci infiniment de nous avoir suivis.